Mais bonjour à tout le monde, je suis content de me retrouver auprès de vous après ces temps de vacances et d'absence. Plaisir de reprendre cette place de la prédication que j'affectionne. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous apporter un message qui fait écho avec la prédication, alors j'allais dire de dimanche dernier, mais non, c'était il y a plusieurs semaines où on a fait cette prédication spécialement sur l'Église persécutée. C'est donc une prédication qui va reprendre en partie ce texte de 2 Corinthiens 4, entre autres textes. Avant de lire les Saintes Écritures, je vous invite à prier afin de demander à Dieu que sa sagesse et sa façon de penser priment sur les nôtres. Prions. Voilà notre Dieu, nous sommes ton peuple, tes disciples, tes enfants. Et nous avons à cœur d'être à ton école. Nous sommes bien complexes et déjà bien orientés dans notre façon de penser ce monde, cette vie. Et nous voulons vraiment que ta façon de penser les choses vienne transformer les nôtres. Que ta sagesse, ta vision du monde soit celle qui nous conduise dans notre lecture de ta parole. Que nous soyons façonnés à ton image pour être sel et lumière de ce monde. Voilà, que tu me conduises, moi particulièrement, qui apporte la prédication. Amen. Alors, trois textes. La première dans le livre de l'Ancien Testament, 2 Samuel. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Donc, 1 et 2 Samuel, vous savez, c'est l'histoire en gros de la fin du temps des juges, de l'accession au trône du roi Saül, puis de David. Et dans 2 Samuel, on est plutôt du côté de David. 2 Samuel 22. Et je lis juste les trois premiers versets. David adressa ce cantique au Seigneur, quand celui-ci le délivra de tous ses ennemis, en particulier de Saül. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge, où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher, où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé, je cherche asile auprès de lui pour être délivré des violents. Voilà. Une deuxième lecture dans 2 Corinthiens 4. Donc là, on bascule complètement dans le Nouveau Testament. C'est la lecture il y a 2 semaines. 2 Corinthiens 4. Et on va lire les versets 7 à 9. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous les côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désemparés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Jetés à terre, mais non pas anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Voilà une dernière lecture dans l'évangile de Matthieu, les paroles du Seigneur, évangile de Matthieu, chapitre 10. Les versets 28 à 31. Matthieu 28, 10, 10, 28, 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez pas peur. Vous valez plus que des moineaux. Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, comme d'habitude, je veux contextualiser un peu ces trois textes. La première lecture qu'on a faite concerne l'histoire du roi David. Au moment où David chante ce cantique, la paix est restaurée en Israël. Après de nombreuses années de guerre civile, pourrait-on dire, menée par Saül contre David, celui que l'Éternel avait choisi. David a passé ses années à s'efforcer de prendre soin de son peuple sans être vraiment couronné, tout en fuyant les menaces de Saül. Ce furent pour lui des années de vagabondage. Il dormait, lui et ses hommes, dans les cavernes. Il faisait des guérillas, comme un vrai camisard, affrontait des ennemis d'Israël, comme les Philistins, par exemple, mais parfois signait des pactes avec eux pour se réfugier. Une vie pleine de compromis, d'épreuves et de difficultés. Des années durant lesquelles il s'est efforcé d'être bien droit devant Dieu. Et une chose remarquable à souligner dans son comportement est l'apparente faiblesse qu'il avait face au roi Saül, qui n'a jamais attaqué de front, ni même tué malgré les occasions qui se sont présentées à lui. Il attendait de Dieu qu'il lui donne son trône plutôt que de s'emparer du trône par la force. Voilà pour le roi David. Je passe maintenant à l'exhortation de Jésus en Matthieu 10. Donc la deuxième lecture, Jésus rassemble autour de lui les 12 disciples. Dans l'évangile de Matthieu, c'est à ce moment-là qu'on découvre la shortlist des 12 disciples de Jésus. Pierre, André, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon et Thomas. Et Judas, pardon. Il accorde aux 12 une part de son esprit de sortir pur, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, bref, tout ce qui annonce le règne de Dieu, puisque quand le règne de Dieu sera là, il n'y aura plus de morts, plus de maladies, plus de lépreux, plus de démons. Voilà. Et avec cela, il leur rappelle aussi qu'ils auront des persécutions, qu'ils seront rejetés. Il annonce que l'évangile ne rassemblera pas tous les humains dans la fête et la joie. Loin de là, au contraire, il va apporter la division jusqu'au cœur des familles. Et c'est au cours de cet envoi en mission qu'il leur dit ces propos encourageants. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent simplement faire mourir le corps, mais craignez celui qui peut faire mourir le corps et l'âme. Et la troisième lecture, écrite par Paul. Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, s'efforce de mettre en lumière pourquoi les persécutions qu'ils connaissent, on l'avait lu, ils étaient prêts à perdre la vie, ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des manifestations de la gloire de Dieu dans leur vie. Difficile à comprendre. Il y a quelque chose d'indestructible chez ces disciples de Jésus. Mais apparemment, cette chose indestructible, ce n'est pas le corps ou le moral, mais l'âme. Au final, Judas mis à part, et Jean, les 10 autres disciples finiront dans des morts violentes. Pendaison, décapitation, percé par une flèche, une lance, pendaison. Bref, rien de bien glorieux, mais certainement leur âme aura été préservée. Pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces choses-là ? Comme je l'ai déjà dit dans ma dernière prédication, nous vivons dans un monde violent. La guerre qui a aujourd'hui lieu en Ukraine le témoigne bien. Nous sommes pauvres, voire la plupart du temps incompétents pour trouver des bons chemins vers la paix. Et nous sommes prompts à résoudre les conflits par la violence et les épreuves de force. Ce monde est plein de violence, de malveillance et de douleur. Semaine dernière encore, et dans la peine de ce décès de Manon, 16 ans. Et vous, dans vos vies, vous connaissez ces choses-là, ces drames, ces déceptions, ces trahisons, cet égoïsme, l'opportunisme autour de nous, le chacun pour soi, les couteaux dans le dos parfois, les coups du sort, le chômage, les accidents domestiques, les maladies, la mort. Le monde créé par Dieu est magnifique et plein de beauté et de richesse, mais nous y connaissons sans cesse peine, douleur, violence, peur. Et pendant mes vacances, j'ai eu une conversation avec un petit garçon de 10 ans, un soir. Il vient me voir parce que il n'arrive pas à dormir, parce qu'il a peur des voleurs. On était dans le fin fond du Morvan, dans un village où il y a 250 vaches pour 12 habitants. Alors j'essaie de le raisonner un peu en pointant du doigt que, en termes de voleurs, on est plutôt tranquille ici et qu'il n'y a pas grand-chose à voler dans la maison. Je lui demandais qu'est-ce qu'il avait peur que les voleurs lui fassent et il m'explique « j'ai peur qu'ils viennent me tuer ». Effectivement, ce n'est pas des bons voleurs, ça. Hein. Et je réfléchis à la vie de ce petit garçon que je connais bien. Et il m'est apparu que, en l'espace de 3 ans, sa vie entière a été bouleversée. Séparation des parents, déménagement, un frère qui tombe malade du diabète, un autre frère qui s'en va au loin pour faire ses études. Bref, beaucoup pour un petit de 10 ans. Et quelle responsabilité pèse sur lui vis-à-vis de tout ce qui lui arrive? Aucune. Quelle capacité d'agir, d'infléchir le cours de ce qui lui arrive quand il voit tous ces lieux de paix, de joie, d'équilibre disparaître les uns après les autres. Quelle capacité d'agir ou d'infléchir cela possède-t-il? Presque nulle. Autrement dit, 3 années de bouleversement l'ont terriblement confronté à son impuissance totale. Toutes ces choses lui arrivent sans qu'il puisse résister, s'opposer, éviter, protéger son petit monde de joie. Et aujourd'hui, la joie est devenue précieuse parce que rare pour lui. Voilà pourquoi il a peur des voleurs. C'est une sorte d'incarnation, de manifestation dans son esprit de ce coup du sort, ces trucs qui viennent débarquer dans notre vie, ravager tout, et on ne peut rien faire. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et on ne peut pas le protéger. Quelle meilleure illustration dans son esprit pour ça que le voleur qui vient au milieu de la nuit quand tu dors. Comment consoler? Comment rassurer un enfant de 10 ans? Alors j'ai commencé par lui dire, c'est vrai, c'est vrai. La vie est pleine de choses, comme celles qui lui sont arrivées. Parfois, on nous a pris les lieux de joie, on nous a détruit les lieux de confiance. Parfois, c'est des gens qui le font. Parfois, c'est le hasard s'il existe. Et que c'est tout à fait normal que ça nous décourage, que ça nous rende triste, que ça nous mette en colère, que ça nous rende amer. Parfois même, on se sent coupable d'être nul, coupable de ne pas pouvoir faire quelque chose alors qu'on est face à des situations qui nous dépassent. Et qu'il faut bien garder dans notre cœur que ce n'est pas de notre faute tout. Et qu'il y a des drames qui nous arrivent que personne ne pouvait empêcher. C'est vrai. La vie sur Terre, elle est ainsi. Je ne pouvais pas lui dire autre chose. Tout peut être pris par des circonstances et par des voleurs, les méchants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? M'a-t-il demandé. D'abord, on a le droit de pleurer et de trouver des gens qui nous consolent quand on pleure. Ensuite, il faut trouver le courage. Il faut le trouver. Et souvenons-nous que le courage, ce n'est pas la vertu de ceux qui n'ont pas peur. Ceux qui n'ont pas peur n'utilisent pas le courage. Voilà. Si vous avez peur d'un cheval et que je vous demande de monter sur un cheval, vous allez devoir être courageux, courageuse. Si vous me demandez à moi de monter sur un cheval, vous allez devoir me retenir plus qu'autre chose. Je vais m'éclater, ça ne me fait pas peur. Donc, je n'ai pas besoin de courage pour monter sur un cheval, moi, puisque je n'ai pas peur. Ceux qui utilisent le courage, ceux qui trouvent le courage, c'est ceux qui ont peur, mais qui décident de marcher sur le bon chemin, même quand ça fait peur. C'est ça le courage. Seuls ceux qui ont peur peuvent être courageux. Alors face à ces choses qui nous arrivent et qu'on ne contrôle pas, il faut du courage. Parce que souvent, quand on a peur, c'est parce qu'on se sent impuissant et dépassé. Qu'est-ce qui va se passer? Hier, j'accompagnais, j'étais allé visiter Evelyne Bruniquel qui me disait « Je ne vois pas le bout du tunnel. » Mais où trouver son courage? Il faut le trouver dans l'espérance qu'on va réussir à reconstruire ce petit monde cassé autour de nous. On va réussir à reconstruire des jardins de joie et de paix et d'amour. Et pour trouver l'espérance qu'on va réussir à reconstruire, il faut regarder à ce que les voleurs ne peuvent pas prendre. L'amour des parents, l'amour des grands-parents, les rêves qu'on a dans le cœur, l'intelligence, les talents, les forces et les dons qu'on a reçus dans son corps, dans son cœur. Et aussi, lui ai-je dit à ce petit garçon, « Moi, j'ai l'amour de Dieu. Et Dieu m'aime plus que tout le monde. » Ça, c'est vraiment, vraiment indestructible. Alors, lorsqu'on trouve en nous ce qui n'a pas été détruit ou volé, ce qui ne peut pas être détruit ou volé, on retrouve l'espérance de reconstruire quelque chose. Et si on retrouve l'espérance, on peut y trouver notre courage. Même si c'est difficile, on l'a chanté. Même si ça fait peur. Voilà pour l'histoire du petit garçon à consoler. La fin de la vie de nos 12 apôtres nous montre bien que la foi chrétienne n'épargne pas les douleurs et les épreuves. Si quelqu'un vous a dit « quand vous serez chrétien, votre chemin sera simple », il vous a menti complètement. Alors comment David peut-il crier et chanter « Dieu, tu es ma haute retraite, le rocher où je me réfugie ». Certains d'entre vous l'avaient dit quand Timothée nous a exhortés à verbaliser en un mot ce que Christ est pour nous, refuge, rocher, ont été dit. David se trompe-t-il ? Ne devons-nous pas attendre de Dieu notre secours ? Si, bien sûr. Mais revenez à la vie de David. Il est loin d'avoir été épargné d'épreuves et de souffrances, de tentations. Et s'il a eu un début de règne glorieux, vous savez tous que sa fin n'a pas été aussi sage que celle du début. Quelle autre retraite trouvait-il alors en Dieu ? Celle de ne jamais être abandonné, celle de toujours avoir ce noyau central, stable, à partir duquel je peux tout reconstruire avec le courage et l'espérance. Comment comprendre ces paroles de Jésus qui nous encouragent à ne pas avoir peur de ceux qui peuvent faire périr le corps ? T'es sérieux, Jésus ? Oui, il est sérieux. Moi, j'ai peur de ceux qui peuvent me tuer. Nous avons peur de souffrir. Nous avons peur de laisser les nôtres derrière nous. Mais Jésus ose dire, ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps. Alors, qui est celui qui peut faire périr et le corps et l'âme ? Est-il en train de nous dire, craignez Dieu et non pas les hommes ? Est-il en train de nous dire, craignez celui qui peut vous corrompre le cœur ? Pour Jésus, il est plus important de rester dans le droit chemin de sa foi plutôt que de choisir d'éviter la souffrance, quitte à trahir sa foi. Et l'apôtre Paul nous dira la même chose en 2 Corinthiens. Juste avant le passage qu'on a lu, il dit « Car c'est notre gloire, notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et à votre égard avec sincérité, sainteté, une sincérité et une sainteté qui viennent de Dieu et non pas d'une sagesse charnelle. » Il y a des moments où peut-être vous avez vécu, on est face à cette situation où on a, entre guillemets, le choix entre vivre le chemin étroit de Dieu ou éviter le problème, éviter la confrontation, éviter la souffrance, éviter le conflit, éviter l'humiliation, le rejet. Et vous choisissez le chemin étroit. Et les conséquences arrivent, et elles sont douloureuses et amères. Mais dans votre cœur, vous avez cette résonance, cet écho. Je ne me suis pas trompé. J'ai suivi Jésus sur le chemin étroit. C'est de ça que Paul parle. Notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Alors, quelle assurance ai-je en Dieu ? Quelle autre retraite m'accorde-t-il ? Comment puis-je me rassurer face aux voleurs de la nuit ? Si l'assurance que je cherche en Dieu, c'est qu'il n'y aura jamais de voleurs chez moi, pas de malheur dans ma vie, la vérité que je me dois de vous dire, c'est que vous ne la trouverez jamais. Ou, si vous la trouvez, elle sera illusoire et fondée sur des mensonges. Et elle volera en éclats à la première grosse difficulté qui vous tombera dessus. Le voleur comme le malheur viendront chez vous, frères et sœurs, chez vos parents, chez vos voisins, chez vos amis, il viendra. Mais ce que je trouve en Dieu, c'est ce petit bout, ce grand bout, qui ne bouge pas quand tout le reste du monde est bouleversé. Comme à ce jeune garçon, je peux vous dire, trouve ce qui en toi ne bouge pas et reste stable, ce qu'on ne peut pas te prendre. Et vous, de contempler l'amour que Dieu a pour vous. Amour étrange, exotique, atypique, farouche, dont on n'a jamais vraiment réussi à faire le tour, à comprendre, mais un amour infaillible et pour toujours. Cet amour, de là jaillit l'espérance, parce que tout ne peut pas être perdu. tout ne peut pas être vaincu par le mal. Tout ne peut pas être souillé par le péché. Il existe un endroit dans ma vie, où je suis toujours appelé à prendre un nouveau départ, où je peux toujours reprendre un nouveau départ, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je fais une pause. Je ne suis pas du tout en mesure de vivre ce que je vous prêche, mais je vous le prêche parce que c'est vrai. Hein. Mais n'allez pas croire que j'en suis là. Ce n'est pas vrai. Je vous le prêche parce que c'est vrai. Plaise à Dieu de me mener à être capable de vivre ça un jour. S'il peut m'éviter de tout reconstruire aussi, je suis content. Mais c'est pour ça que Paul écrit « Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas sans issue. Nous sommes désemparés, mais non pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non pas abattus. » Parce que il y a cette source d'amour de Dieu en nous. Il dit « C'est la mort et la résurrection de Christ. Dieu s'est donné pour moi, et le mal ne l'a pas vaincu, mais il a triomphé du mal. » C'est ici l'évangile de Dieu. L'amour de Dieu pour vous est indestructible. Il vous l'a montré, il vous a dit qu'il vous aimait, il l'a déclaré en donnant Christ pour vous, en toute connaissance de cause. Il a pris votre dossier, il a épluché votre dossier, toute votre vie, vous n'étiez même pas né. Aujourd'hui, si tu as honte de toi, si tu te décourages de toi, si tu ne crois plus en toi, si tu te sens inutile, si tu te vomis dans ton impuissance dans la vie, si tu détestes ce que tu es devenu à cause de choses qui te sont arrivées, souviens-toi de l'évangile. Dieu a donné Jésus pour toi en toute connaissance de cause. Christ s'est offert pour toi précisément pour racheter toutes ces choses que tu vomis en toi, qui te découragent, qui te plombent, qui te paralysent. Alors, il n'est pas bon de te sentir indigne de Dieu, de douter de son amour pour toi. Si Dieu n'aime que les gens aimables, c'est un Dieu en carton-pâte qui ne sert à rien. Notre Dieu vous aime tel que vous êtes. L'amour de Dieu est plus puissant que cela. Dieu n'a pas... Au moment où Christ était crucifié, le seul être humain parmi les humains à l'avoir vraiment glorifié, honoré, représenté dans ce monde, il n'a pas pulvérisé la terre. Au moment où son enfant qu'il avait envoyé dans le monde est mis à mort injustement par les humains, il a pardonné. Non, frères et sœurs, Dieu ne se lasse pas de son amour pour vous. Il est plus fort que la mort elle-même. Voilà l'espérance à partir de laquelle je veux être capable de rebâtir. À partir de laquelle nous pouvons être capables de prendre un nouveau départ. Mais il nous faudra du courage. Du courage. Et l'espérance. Parce que nous craignons la souffrance. Avec raison, elle est mauvaise. Et vous savez que dans le monde à venir, il n'y aura plus de souffrance. C'est bien la preuve qu'elle est mauvaise. Mais il n'y a pas d'autre moyen que d'avancer avec courage, si l'on veut marcher pour Dieu, avec Dieu, en Dieu, dans la paix, pour la justice, par l'amour. Cela demande du courage. Oui, il y a des voleurs. Oui, il y a des malheurs. Et non, votre foi, si grande soit-elle, ne les gardera pas au loin. Mais votre foi vous gardera toujours dans l'espérance. Et si vous avez l'espérance, vous pouvez trouver le courage de continuer le chemin, quitte à reconstruire, à racheter, à réparer, à restaurer ce que le mal aura ravagé. Ainsi, vous témoignez de la mort et de la résurrection au monde entier. Car de même que toutes les forces du mal n'ont pas pu éteindre la lumière du monde, les épreuves ne vous éteindront pas avec l'aide de Dieu. Mes amis, j'espère avoir prêché droitement la parole de Dieu et proclamé son évangile. Je n'arrive pas et je ne prétends pas vivre ces choses, mais je les dis parce que je les crois conformes à l'Écriture. Je veux terminer avec deux passages. Le premier en Romains 8. Vous savez déjà ce que je vais lire. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Du Christ, pardon. La tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, le dénuement ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre chose, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous en Christ Jésus, notre Seigneur. Aucune chose. Et un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je mets le genou devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église, par Christ et dans tous les temps et pour toujours. Amen.